Le livre de Néhémie, au chapitre 8, versets 1 à 8, le récit d'une lecture publique de l'Écriture, et voir ensemble ce que l'on peut en retirer pour notre édification. Néhémie, chapitre 8, verset 1er. Néhémie, chapitre 8, verset 1er. Excusez-moi pour mon retard de tout à l'heure. Il y a quand même du monde dans le coin. Hein? Néhémie, chapitre 8, verset 1er. Merci. Vous y êtes? Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, donc certainement des enfants jusqu'à assez petits. Hein. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Après, auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkiya et Maaseya, et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadbana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaya et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Amen. Alors, c'est écrit d'abord, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Amen. La parole de Dieu unit. Amen. C'est ça qui va nous unir. C'est ce que nous croyons de l'Écriture. Ce qui divise les églises, c'est ce qu'on fait en dehors de la parole de Dieu. Ce qui divise le peuple de Dieu, c'est tout ce qui n'est pas dans l'Écriture et qu'on voudrait importer dans la maison de Dieu. Mais tant que l'Église reste fondée sur l'Écriture et que les chrétiens aiment l'Écriture, l'Église sera unie. Amen. Et quand nous venons aux réunions, nous voulons nous assembler comme un seul homme pour dire, Seigneur, parle. Nous avons besoin de ta parole. Amen. La parole de Dieu unie. Par contre, les commandements d'hommes peuvent diviser. Au verset 3, il est quand même question d'une longue lecture. De l'aube, dit une traduction, jusqu'à midi. C'est quand même plusieurs heures. Et une lecture de cette durée-là, je ne sais pas si aujourd'hui ce serait possible. Il y a des études, alors c'est aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, là-bas, il y a tellement d'églises, et on fait souvent des études sociologiques sur les églises. Une étude a été faite, et paraît-il, que le temps moyen de prédication dans certaines région a été réduite en 15 minutes. Et en France, il semblerait que la moyenne serait approximativement de 20 à 25 minutes. Dans une assemblée près de chez nous, il n'est pas rare qu'on prêche un quart d'heure, une assemblée de plusieurs centaines de membres. Eh oui, savez-vous combien de temps duraient les prédications au temps des protestants de la Réforme? Il n'était pas rare qu'elles durent 3 heures. Rassurez-vous, je ne vais pas prêcher 3 heures ce soir. Mais quand même, ce qui a caractérisé la Réforme, c'est la centralité de la parole de Dieu. Et il y avait même des temples où on mettait la chair au milieu pour que tout le peuple de Dieu entoure cette estrade parce que la parole de Dieu était au centre du culte. Ah oui, la parole de Dieu doit être un élément central de notre foi. Nous sommes à une époque où on ajoute bien des choses et je crois qu'il y a une place pour la musique et le chant, tout à fait. Mais elle ne devra jamais remplacer la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Amen. Nous ne nous nourrissons pas de musiques et de chants, mais avant tout, le pain de Dieu, c'est sa parole. Amen. Dieu soit béni pour le chant, pour la musique. Mais les meilleures choses deviennent mauvaises quand elles prennent le pas et quand elles vont au-delà de ce qui est prévu pour elles. Le sel, ça relève le plat, mais quand vous en mettez trop, c'est pas bon. Pour tous, la parole de Dieu. Hommes, femmes et enfants. Amen. Tout le monde était là. Gloire à Dieu. Nous avons pris la décision dans notre assemblée pour les tout-petits. Alors, c'est vraiment les tout-petits, parce qu'on a cherché un matériel. Alors, j'ai regardé ce qu'il y avait pour les tout-petits. Donc, les tout-petits, c'est 2 à 5 ans. Hein. Pour les tout-petits. Et je regardais, on parlait des vaches, des éléphants, des mammouths, un peu de tout. Mais on ne parlait jamais de la parole de Dieu dans certains ouvrages. Je dis, mais on va pas quand même leur parler des animaux, et c'est tout. Alors on a dû essayer de faire des leçons. Et j'ai été très, très surpris. Des fois, on prenait des risques, on dit, mais ça va passer complètement au-dessus, ça. Mais alors, très, très surpris, on fait les mêmes leçons, même pour les grands, mais évidemment, adapté. Et vous verriez comment les enfants boivent les paroles. Mais nous, des fois, on pense que la parole de Dieu, elle n'est pas intéressante. Mais qui a dit ça? La parole de Dieu avec le Saint-Esprit, tout le monde va pouvoir se régaler avec elle. Alléluia. Des plus petits jusqu'aux plus vieux. Merci Seigneur. Hommes et femmes, dans les écoles bibliques, parfois, il y a des sœurs. Et des fois, les autres étudiants les regardent. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pas parce que les sœurs ne doivent pas prêcher qu'elles ne peuvent pas étudier. Amen. Ah ben oui. Parce que pour servir le Seigneur, pour s'affermir dans la foi, ben d'ailleurs, moi, j'étudie pas la Bible pour prêcher. J'étudie la Bible parce que j'aime la parole de Dieu. Et parce que ma foi de chrétien doit être nourrie par elle. Amen. Et qui a dit que les sœurs devaient moins connaître l'Écriture que les frères? Mes sœurs, étudiez la parole de Dieu. Alléluia. Plongez vos regards dans l'Écriture sainte. Merci Seigneur. La parole de Dieu pour tous. Vous avez remarqué l'attention. C'est précisé qu'ils ont écouté, hein, c'est toujours au verset 3, tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. Ben, l'attention, ça dépend de l'intérêt. Amen. Est-ce que vous êtes attentif à la parole de Dieu dans les réunions? Parfois, l'attention peut baisser et des fois, ça peut nous aider. C'est un indicateur. On peut penser que ça va, on est au Seigneur et on aime le Seigneur, on marche bien avec le Seigneur. Mais si dans les réunions, oh, je parle une fois, ça peut arriver, on est fatigué, on a eu le travail, on passe à côté de la réunion, ça peut arriver, bien sûr. Mais quand ça commence à devenir régulier, répétitif, quand on vient aux réunions mais qu'on ne reçoit plus grand-chose de la prédication de la parole de Dieu, alors ça doit être une indication. On devrait se dire, je ne dois pas aller si bien que ça. Je ne suis plus attentif à la parole de Dieu. Seigneur, pardon, c'est ta parole. Redonne-moi un cœur assoiffé et réceptif pour ta parole. Amen. Et quand on a de la bouteille en tant que chrétien, ben on connaît beaucoup de choses. On a entendu des milliers de prédications. Et parfois, on peut se lasser que le Seigneur nous renouvelle. Amen. Pour pouvoir toujours écouter la parole de Dieu comme un lait, comme le nourrisson qui crie pour avoir son biberon. Amen. Le lait pur, non frelaté de la parole de Dieu. L'attention. L'attention, elle baisse. La concentration baisse dans notre époque. Tout est étudié pour cela. Même les journaux du monde ne peuvent plus faire des articles comme auparavant. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de reprendre des journaux même des années 70 et les journaux d'aujourd'hui. Et vous verriez le nombre de caractères par page. Vous verriez comment les éditions ont évolué parce que les gens ne savent plus lire longtemps. On ne sait plus se concentrer. Et pourquoi ? L'une des raisons, c'est l'envahissement des écrans. Il a été prouvé que les écrans, parce que je dis les écrans, parce qu'il y en a plein. Il y a la télé, il y a l'ordinateur, il y a le portable, il y a la tablette. Les écrans, endorment. Des études scientifiques ont été... C'est pas moi, pasteur, qui n'aime pas ça et qui prêche contre. J'ai lu un livre d'un scientifique. Le titre, c'est « TV, lobotomie ». Bon, j'ai dû prendre mon dictionnaire. Ça m'a... Tant mieux, j'aime bien lire parfois des livres qui me donnent d'apprendre aussi des mots nouveaux. Mais là, ça faisait quand même pas mal de mots nouveaux à la page. Épreuve à l'appui. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit, voilà, telle expérience a été faite. Et il prouve que les écrans abrutissent. Enfin, diminuer la concentration. Bon, je fais une parenthèse. Ce soir, vous ne dites pas à vos enfants, « Bon, maintenant, tu ne regardes plus rien. Hein. » S'il vous plaît. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Je le disais, je ne sais plus à qui, je trouve que c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de choses à gérer. Et c'est compliqué. Donc, mon propos ici, ce n'est pas... qu'on tire à boulet rouge sur les écrans comme cela, mais c'est de faire réfléchir et de dire il faut quand même à un moment donné arrêter, appuyer sur le bouton, pas pour allumer, pour arrêter et lire la parole de Dieu. Amen. Alors lire sur écran la parole de Dieu, oui, mais alors on s'en sort plus. On regarde la télé, au boulot, on est sur l'ordinateur, dans la vie de tous les jours, on communique par le portable, et maintenant on va lire la parole de Dieu par l'écran, on ne s'en sort plus. On est constamment dans l'écran. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de l'image. Il est le Dieu de l'oreille, il est le Dieu de la voix. Dieu parle, et il faut l'entendre. Amen. Alors, voilà. Honorons la parole de Dieu en nous concentrant et essayons d'avoir une vie qui soit peut-être un petit peu purgée de cette distraction audiovisuelle. Parce qu'il est aussi prouvé que quand on est trop dans cet audiovisuel, une fois qu'on arrête, il faut un certain temps pour atterrir dans la tête. Et si on regarde la télé jusque minuit, et qu'à minuit on ouvre la parole pour la lire, je ne suis pas persuadé que ça sera très profitable. Alors le sujet, ce n'est pas, on n'a pas le droit de regarder la télé, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, il faut lire la parole de Dieu, et pour cela, avoir une vie qui la favorise, qui nous y prépare. Amen. Alors, l'attention. Verset 5, le respect. Magnifique, le respect. Il est dit que lorsqu'il l'eut ouvert, c'est à la fin du verset 5, tout le peuple se tint en place. Une autre traduction, alors, je l'ai noté. À ce moment-là, tous se levèrent. C'est beau, ça. Alors, je ne sais pas si ça se fait ici, ça ne se fait plus trop d'ailleurs par chez nous, mais je n'aimais pas trop ça. Quand j'étais au collège, et que d'un coup, le directeur entrait, on se levait. Je n'aimais pas, pourquoi je dois me lever, voilà. Mais on se levait quand même. C'était monsieur le directeur. Et là, l'homme de Dieu arrive, et vous avez remarqué, on ne se lève pas quand l'homme de Dieu arrive. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et quand il ouvre la Bible, enfin l'Écriture, les gens se lèvent ou se tiennent en place. Le respect de la parole du Seigneur. Amen. Se lever. Le psaume 119, l'homme de Dieu dit, « Ta parole vaut pour moi mieux que 1000 objets d'or et d'argent. » Gloire à Dieu. Mais on le lit vite, hein. Mais 1000 objets d'or et d'argent. Là, je ne sais même pas s'il y aurait assez de place pour mettre les 1000 objets d'or et d'argent. Mais vous vous rendez compte ce que c'est que 1000 objets d'or et d'argent? Mais c'est la caverne d'Ali Baba. C'est des millions d'euros. Alors, ah, ça change. Ah, alors, je voudrais vous poser la question. Demain, quelqu'un arrive et il met là une Bible. Et il met là 1000 objets d'or et d'argent. Et il vous dit, vous pouvez choisir, mais c'est l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vaut mieux pour nous que 1000 objets d'or et d'argent. Alors bien sûr, je sais ce que vous allez me dire. Maintenant, moi je prendrai les millions d'euros. Et avec 10 euros, j'irai m'acheter une Bible. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire des choix. Amen. Alors on en rit, mais quelque part, des fois, dans nos vies, on doit faire des choix, même avec notre argent. On utilise beaucoup notre argent pour nous. Mais parfois, acheter un bon livre chrétien, 60 euros. Oh, c'est cher! 60 euros le livre, c'est cher quand même. Eh oui, mais on dépense parfois bien plus pour bien moins. La parole de Dieu vaut mieux que 1000 objets d'or et d'argent. Amen. Dans ce verset aussi, le respect de la parole de Dieu, on a pu le connaître avec certains hommes. Moi, mon formateur, souvent, mon premier pasteur, disait sans cesse dans sa prédication, « Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. » Et des fois, dans une réunion, peut-être un peu trop, mais bon, voilà. Mais alors, il nous prenait des références dans la Bible, et hop, et une autre, et une autre. Des fois, dans une réunion, des dizaines. On avait intérêt à connaître les livres et à les trouver les passages. Mais il est écrit. Amen. Dans le Nord, il y a des chrétiens polonais. Alors, c'est quoi un chrétien polonais? C'est déjà un chrétien grand et costaud. Et c'est des chrétiens qui venaient de la mine. Et il y a eu un réveil extraordinaire dans le Pas-de-Calais. Le Seigneur a visité du Saint-Esprit des mineurs, des Polonais. Ils descendaient au fond de la mine en chantant des cantiques. Et quand ils revenaient de la mine, il y avait les réunions. Et quand les réunions se terminaient, eux-mêmes entre eux, ils allaient chez eux, ils priaient. Moi, j'ai connu un frère qui m'a dit comment il s'est converti. Il est rentré dans une de ces maisons de chrétiens. Ils avaient passé des réunions, alors il priait. Il est arrivé, il a entendu des chants célestes. L'onction est tombée sur lui. Il a donné sa vie au Seigneur. Il y a de belles choses. Alléluia. Mais ces chrétiens polonais, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais parfois, un frère me disait, un pasteur qui avait travaillé aussi parmi eux, si on arrivait, qu'on s'asseyait, qu'on ouvrait l'écriture et qu'on disait, mes frères, c'est écrit. Ben, tout costaud que le chrétien polonais était, il baissait la tête, il dit, si c'est écrit, frère, c'est écrit. Alléluia. C'est beau ça, hein, le respect de la parole de Dieu. La Bible, c'est ce que dit le Saint-Esprit. Amen. Comme l'Esprit dit, hein, dans les Actes des Apôtres, la Bible, c'est ce que dit le Saint-Esprit. Ce que je vous dis, ce sont des vieilles bases, mais c'est bon de revenir. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, le Seigneur m'a dit que, mais la Bible ne dit pas ça, vous avez le droit de lui dire, non, le Seigneur ne dit pas ça. Il dit ça dans sa parole. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a inspiré la Bible. Toute l'Écriture est inspirée du Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas dire quelque chose de contraire à ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Alors, nous, l'expérience ou la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et heureusement qu'on a la parole écrite de Dieu. Parce qu'au nom du Saint-Esprit, on peut tout dire. On peut dire ce qu'on veut. Un autre de mes formateurs, la fois, était excédé. Et en prédication, il disait, de toute façon, si vous dites, c'est le Seigneur qui m'a dit, ben nous, on n'a plus rien à dire. Et c'est vrai. Il ne faut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est un commandement important. Dans le livre d'Esther, Dieu n'est jamais nommé. Et pourtant, Dieu est là du début à la fin, souverain. Amen. Ce n'est pas toujours ceux qui en parlent le plus. Non. Des fois, peut-être humblement, il n'y a pas besoin de dire le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Si c'est le Seigneur, ça va se voir. Il va avoir les fruits. Et ça sera en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible, c'est la voix du Saint-Esprit. La loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Donc, il n'y a pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit pour ajouter quoi que ce soit. La loi de l'Éternel est parfaite. Le verset 8 nous conte le récit d'une bonne lecture. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Une bonne lecture. C'est déjà bien important que dans l'Église, on lise la parole de Dieu. Amen. Paul a dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Et il y a une traduction qui dit, « Applique-toi à la lecture public des Écritures. » Et c'est vrai que quand vous regarderez, vous y réfléchirez, c'est 1 Timothée 4, 13. Ben Paul dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et dans le contexte, ben l'exhortation, ce n'est pas pour lui. L'enseignement, ce n'est pas pour lui. Alors ça peut se comprendre qu'on puisse y voir là, non pas une lecture pour lui, mais une lecture pour les autres, dont une lecture publique. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique. De telle sorte que l'on peut dire que ce qui s'est passé là dans Néhémie 8 doit être en fait une pratique régulière dans l'Église. Amen. On a lu en Néhémie 8, mais dans l'Église, on doit toujours lire à chaque réunion la parole de Dieu et nous y appliquer. Amen. Surtout qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas eu l'impression avec la machine de Gutenberg. Les chrétiens n'avaient pas de Bible. La très grande majorité des chrétiens n'avaient pas de Bible. Et la Bible, ils l'entendaient dans les rassemblements de l'Église. Alors vous allez me dire, bah, aujourd'hui, c'est plus comme ça. On en parlera. Mais peut-être que des fois, il y a des chrétiens qui n'ont pas lu du tout de la journée la parole de Dieu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir la Bible. Hein. C'est de la lire. Et je crois des fois que ça fait du bien de lire, d'entendre la parole de Dieu dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que des fois, voilà, on ne prend pas forcément toujours le temps. Amen. Alors, on a aussi le besoin des ministères au verset 8. Hein. Il y a toute une liste et pas qu'au verset 8. Alors, j'ai lu des noms difficiles quand même à lire, à épeler, mais il y en avait quand même quelques-uns là. Esdras n'était pas tout seul. Il lisait à tour de rôle et selon les uns les autres expliquaient. C'était pas le même, c'est pas français ce que je vais vous dire, c'était pas le même explicateur. Et ça, je trouve que c'est bien. Que l'Église soit au bénéfice, non pas d'un seul ministère, mais que l'Église soit au bénéfice des ministères de la parole de Dieu. Amen. Que des frères, parfois, viennent dans l'assemblée et expliquent la parole de Dieu. Merci Seigneur. Parce que la richesse de la parole de Dieu est telle qu'un seul homme ne peut pas tout avoir de cette parole. Le psaume 119 dit « J'ai vu que toutes choses ont leurs limites, mais ta loi, elle est immense. Elle n'a pas de limite. » Amen. Et donc, que les frères fidèles puissent donner à l'Église toute la richesse de la parole du Seigneur. Amen. Ils étaient à plusieurs. Je crois en la complémentarité des ministères. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que faut pas confondre la parole de Dieu et un homme. Et si on entend toujours le même homme, peut-être que cet homme va devenir un peu trop important. Et il est bon de se dire, parce que peut-être des fois vous allez dire, là que ce frère-là, ce matin au culte, le Seigneur ne va pas me parler. Hein. Parce que non, j'ai déjà entendu prêcher. C'est gênant ça. C'est gênant. C'est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez comment Spurgeon s'est converti? Spurgeon, on l'a appelé le prince des prédicateurs. Et il cherchait, il était jeune en Angleterre, il était dans les églises. Et puis un jour, je ne sais plus la circonstance, il est entré comme ça dans une église toute petite et tout. Et c'était un paysan qui a commencé à ouvrir la Bible maladroitement et qui a lu la parole et qui a donné quelques mots d'explication. Et là, Spurgeon a été bouleversé. Il a dit, ce jour-là, j'ai entendu l'évangile simplement, en fait, je ne l'avais jamais entendu. Simplement comme cela. Alléluia. Oui, c'est la parole de Dieu qu'il nous faut mettre à l'honneur. Et la diversité des ministères. Je voudrais aussi dire quelques mots, on est obligé d'en parler maintenant. Avant, on n'avait pas besoin d'en parler, mais c'est tellement présent dans la vie des uns et des autres. Faisons attention à l'auto-enseignement par Internet. Il y a toujours un risque avec l'auto-médicamentation, vous savez. Hein? Des fois, on a mal, je vais prendre ça, ouais, d'accord, mais... Bon, ma femme, elle connaît bien les médicaments, moi moins, mais voilà. Il faut faire attention quand même. Bien sûr, une aspirine, et encore, voilà. Mais il y a des risques à prendre des médicaments, à se faire docteur d'un coup soi-même. C'est vrai pour le corps, mais c'est vrai aussi pour l'âme, pour la foi. Là aussi, il a été bien établi que, en fait, les moteurs de recherche vous connaissent très bien. Et ils vous connaissent si bien qu'ils orientent vos recherches. Ce qui fait que pour un même sujet, parfois, il va y avoir quelqu'un qui va avoir certaines infos qui vont lui plaire. Et pour ce même sujet, une autre personne aura d'autres infos qui vont correspondre à son profil grâce aux data, tout simplement. Et ça, il faut qu'on en soit conscient parce que Internet, ce n'est pas la vérité. Internet, c'est sa vérité. Et chacun va se sentir conforté et va dire « Ah mais si, j'ai fait des recherches !» Oui, mais si les recherches sont orientées parce que votre profil a une certaine correspondance, vous savez, Internet ne va pas vous dire la vérité, il va vous dire ce qui vous plaît. Comme ça, vous allez revenir. Attention. Et puis, il y a peut-être quelque part un aspect un petit peu malsain du consommateur. On consomme, on consomme. On consomme des vidéos, on consomme des messages. Mais écoutez, vous ne trouvez pas déjà, rien que là en 3 jours, et pas, c'est pas parce que c'est moi, pas du tout, mais je veux dire là, on a eu 3 jours de réunion, ce serait déjà bien qu'on essaye de vivre ça. Amen. Est-ce qu'il faut encore avoir plein d'autres messages? Mais c'est pour vivre, pratiquer, ou c'est pour consommer? Nous ne devons pas être des consommateurs de messages. Amen. Et quelque part, c'est manquer de respect à la parole de Dieu, de la consommer. Non, appliquons-nous dans le cadre de l'église locale. Je ne suis pas contre que de temps en temps, on aille sur... vous me comprendrez, j'espère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller... Non, ce que je dis, c'est qu'il faut revenir à une vie simple où on lit soi-même la parole de Dieu et on entend l'enseignement dans l'église locale avec la complémentarité des ministères. Et c'est très bien comme ça. Que d'aller essayer, parce qu'il y a toutes sortes, vous savez, toutes sortes de choses qui sont dites, et on peut être troublé, et l'œuvre de l'adversaire peut aussi se faire de cette façon-là. Alors, soyons prudents. Verset 7, il est écrit qu'ils sont restés à leur place. Le verset 7, c'est à la fin. Et chacun restait à sa place. Pour lire la parole de Dieu, il faut arrêter de bouger. Alors, je ne parle pas pour ce soir. Je parle dans la vie. L'hyperactivité. Comprenez? Toujours, toujours, toujours être actif. À droite, à gauche, bosser. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va savoir rester en place pour lire la parole de Dieu? Amen. Rester en place pour ouvrir l'Écriture et écouter le Seigneur. Difficile d'écouter quand on bouge incessamment, mais rester en place, rester assis. Il y a des gens qui ne savent pas rester assis ou qui disent... Moi, si je m'assois, c'est fini. Boum, je tombe. Mais c'est qu'on va peut-être trop loin dans nos limites. Si on ne sait plus s'asseoir sans s'endormir, c'est une alerte. S'asseoir pour méditer et lire la parole de Dieu. Amen. Il y a trois formes de lecture. Il y a la lecture... Il y a la méditation et il y a l'étude. Méditer, paraît-il, en hébreu, ça veut dire ruminer. Ruminer, ça prend le temps. On passe et on repasse. Donc il faut pas être énervé, faut se poser. Amen. Alors je vous souhaite une vie dans la paix. Alors, il faut travailler. Mais l'Ecclésiaste dit, il vaut mieux une main pleine avec la paix, hein, que deux mains pleines avec la poursuite du vent. Amen. Moi, je vais dire, il vaut mieux une main pleine d'argent, ce qu'il en faut, et une main avec la Bible. Alléluia. Et d'abord, la parole de Dieu. Amen. On va lire du verset 9 au verset 12. Vous voulez bien, dans ce chapitre, pour terminer, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour renvoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Alors, la suite de ce texte montre la puissance de la parole de Dieu. Mais comme toute puissance, elle peut être destructrice. L'eau, c'est la vie. Mais l'eau, ça peut être la mort aussi. Un torrent dévastateur. Le vent, c'est pareil. Il y a beaucoup de forces naturelles qui sont soit bénéfiques, soit destructrices. Et là, la parole de Dieu, il commençait à détruire. Tellement elle est puissante, les gens s'affligeaient, se condamnaient. Ça nous est tous arrivé. Où la parole de Dieu presque nous aurait mis à terre, nous aurait abattus. Et heureusement, les hommes de Dieu ont réagi tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Relevez-vous, calmez-vous. La joie de l'Éternel sera votre force. Il y a des années, quand j'ai lu ce passage, j'avais une tendance, moi, toujours, à demander pardon au Seigneur, à m'humilier. Il faut le faire. Mais pas trop. Ce que je partage ce soir, ou peut-être les autres réunions, c'est pas pour vous dire que vous vous disiez plutôt, « Oh ben moi, je lis pas la parole de Dieu. » Je suis un mauvais chrétien. Non. Recevons d'une bonne façon la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous le reprocher. C'est pour nous faire avancer. C'est pour progresser. Amen. Et le temps, de toute façon, qu'on fait ça, malheur à moi, ben c'est le temps qu'on ne fait rien. Au lieu de dire... Ah, je lis pas. Il faut ouvrir la Bible et lire. Amen. Et les hommes de Dieu disent, non, relevez-vous, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est important ça. Vous savez que le diable utilise la Bible. Il l'a utilisée avec Jésus. Et vous savez que parfois, parce qu'un chrétien qui aime la parole de Dieu, ah ben là, ça a une puissance dans sa vie. Et l'adversaire peut dire, ben, avec la parole de Dieu, ça va marcher. Avec la parole de Dieu, je vais lui dire que, de toute façon, tout est perdu pour lui. Et là, il faut réagir. Amen. Comment Jésus a réagi? Il est aussi écrit. Amen. Il est aussi écrit. Et là, pour savoir dans notre vie, quand des fois notre conscience nous dit « il est écrit », mais pour nous détruire, il faut bien connaître la parole de Dieu pour répondre à notre conscience, il est aussi écrit. Alléluia. Pour que cette parole nous donne la vie et non la mort. Donc l'affliction n'est pas toujours synonyme de sainteté. Parce que les hommes de Dieu disent, non, non, ne vous affligez pas, ce jour est saint. Et ils lient la sainteté de cette journée à la joie. Et des fois, nous, c'est peut-être notre arrière-plan catholique dans notre pays français. On pense que la sainteté est plus liée aux larmes qu'au rire. Mais ici, les hommes de Dieu disent, ce jour est consacré, ce jour est saint, alors vous devez honorer Dieu par la joie. Amen. Il y a un temps pour tout, parce que dans ce même chapitre, mais on n'a pas le temps. Dans le septième mois, il y avait aussi le grand jour des expiations. Et ce jour-là, cette fête était donnée pour que tout le peuple s'humilie sur ses péchés. Donc, il y a un moment pour s'humilier. Amen. Mais il y a aussi bien des moments pour nous réjouir. Et il y a plus de fêtes dans le Lévitique pour la joie que pour l'humiliation. Ça aussi, ça fait réfléchir. Parce que sanctifier le Seigneur, c'est lui dire, je suis heureux d'être à toi, Seigneur. C'est l'honorer. Amen. Qu'à un moment donné, de toujours être triste et d'être malheureux en tant que chrétien, je ne sais pas, moi, si votre enfant, il est toujours triste chez vous, vous n'allez pas vous dire à un moment donné, il n'est pas content que je sois son père. Honorer le Seigneur par la joie. Ce n'est pas la joie pour nous-mêmes, la joie pour dire qu'on est heureux, mais heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Alors réjouissez-vous. Et d'ailleurs, le passage se termine avec la joie d'avoir compris. Hein? On le relit ça. Car ils avaient compris, à la fin du verset 12, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Alors ils se sont livrés à de grandes réjouissances. Vous savez, bien aimés, même quand le Seigneur nous reprend, même quand le Seigneur nous dit, là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais en même temps, on est touché, on est humilié, mais en même temps, ça nous est souvent arrivé, on est heureux. On est heureux parce que le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Et on se dit, mais j'étais sur une mauvaise voie, et le Seigneur, il m'a repris, le Seigneur, il m'aime. Il me parle quand je me trompe. Quel honneur! Amen! Donc, ils avaient certainement raison au début de pleurer. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Et des fois, quand on voit le miroir, on fait « Ah !» Mais les hommes de Dieu avaient raison de dire « Écoute, écoute, si le Seigneur te reprend, ne te décourage pas. C'est comme un père qu'il te reprend. » Alléluia! Oui, nous pouvons vraiment être heureux d'entendre la parole de Dieu. Et bien comprendre la parole de Dieu, ça ne sera pas de nous abattre avec elle, mais bien la comprendre, ce sera d'avoir une vie édifiée en lui. Amen. Et nous les hommes de Dieu, c'est un peu notre rôle de vous expliquer l'Écriture et peut-être parfois de vous calmer. C'est-à-dire doucement, doucement. Ne te détruis pas. Amen. Hein, c'est beau cette parole quand le geôlier voulait se suicider. Arrête ! Ne te fais pas de mal. Et dans la nuit, ils ont été sauvés. Merci Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut. Allez, pour terminer, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques. J'ai parlé tout à l'heure de lecture, de méditation et d'étude. Rapidement, pour la lecture. Un conseil pratique. Lisez toute la Bible. Amen. Toute la Bible. Alors, parfois, il faut regarder les tranches. Alors, des fois, il y a une tranche bien, bien grise en plein milieu. Ah, c'est les psaumes. Alléluia. C'est les psaumes. C'est beau, les psaumes. Hein? Et il y a des fois, il y a des pages qui collent. C'est peut-être un peu plus le Lévitique, par exemple. Il faut lire toute la parole de Dieu. Nous croyons que toute la Bible est la parole de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, j'ai bien aimé dans le refrain. C'était quelque chose, le frère va peut-être m'aider, chaque livre nous parle de Jésus-Christ. C'est superbe. Pardon ?
Chaque livre nous révèle.
Jésus-Christ. C'est magnifique ça. Il y avait un livre qui était sorti, Christ, dans toutes les Écritures. Et ce livre était superbe. Il disait, voilà, dans ce livre-là, Jésus-Christ est là. Il est là. Dans ce livre-là, Jésus-Christ est là. Il est là. Magnifique. Amen. Christ dans toutes les Écritures. Je crois que chaque livre a été donné pour apporter quelque chose. Et que si nous négligeons certains livres, nous manquerons d'équilibre dans notre foi. Amen. Même les prophètes, waouh, mais oui, mais on a besoin aussi de la vérité des prophètes. Amen. Dans notre vie. Et puis, lire, mais pas Seigneur, parle-moi. Alors, je sais que ça marche des fois. Je suis au courant. Je l'ai déjà fait. Surtout quand je me convertissais au début. On veut que le Seigneur nous parle. Alors, Seigneur, parle-moi. Puis on ouvre. Et des fois, ça a marché, le Seigneur nous a parlé. Alors, ça fait du bien. Gloire à Dieu. Mais vous connaissez cette anecdote, elle est très connue, mais elle est croustillante, alors je la répète. Seigneur, parle-moi, il ouvre. Et Judas alla se pendre. Wow. C'est pas le Seigneur qui a parlé, là, je vous rassure. Ah, ça, c'est du rajout du midi, ça. Ah oui, j'avais entendu aussi, oui, c'est vrai. Ouais, vraiment connu. Hein. Donc, attention, je crois que des fois, dans des moments de désespoir, Seigneur, mais ça, j'y crois vraiment. Mais c'est des exceptions. Et on ne vit pas d'exception. On est dans une époque où il faut vivre du sensationnel toujours. Mais la vie, elle n'est pas tous les jours, la vie chrétienne n'est pas tous les jours sensationnelle. Elle est tous les jours bien ordinaire. Et il nous faut avoir une certaine discipline dans notre lecture. Je vous conseille de ne jamais lire un autre livre tant que vous n'avez pas lu toute la Bible. Amen. Et de noter au fur et à mesure les livres que vous lisez. Et si on pouvait lire toute la Bible en un an. Amen. Eh bien non, c'est trop. J'ai fait le calcul. J'ai prévu 3 chapitres, un tiers par jour. Ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est pas impossible. Maintenant, écoutez, hein, si vous lisez pas votre Bible une fois par an, ne vous en voulez pas. Hein. Le but, il n'est pas là. C'est plutôt de nous dire, lisons la parole de Dieu sérieusement. Du début à la fin, pas forcément en suivant tous les livres dans l'ordre, mais quand on prend un livre, on commence le livre, on le finit. Amen. Et on aura une vision globale. Et le Seigneur nous affermira par sa parole. Dieu donne à ceux qui cherchent. Alléluia. Il faut se donner un minimum de mal. Je vous conseille de lire une Bible sans notes. J'ai pendant longtemps lu, dans mes premières années, la Bible Scofield. Le problème, c'est que des fois, il y a autant de notes que de textes. Et on est tenté de se dire, alors on lit, mais qu'est-ce qu'il dit sur ça, là? Et on lit les notes. Oui, mais on va avoir la foi de Monsieur Scofield. Il n'y a pas que des mauvaises choses, non, non. Mais ayons une foi personnelle. Lisons la parole de Dieu en demandant au Seigneur de nous éclairer par son esprit. Amen. Après, il y a la méditation, hein, c'est ça, ça c'est autre chose. Et il y a l'étude. Alors pour étudier, par contre, je vais vous dire un peu le contraire. Ayez des outils, une petite bibliothèque, une concordance biblique. Par exemple, vous dites, ah mais moi, étudier la parole, je ne sais pas, hein. C'est les théologiens qui font ça. Ben non, vous avez une concordance, et vous avez à cœur le mot justice. Vous priez, vous sentez qu'il y a quelque chose dans la justice. Prenez la concordance biblique, vous allez au mot justice, et lisez les versets qui parlent de la justice. Ça peut vous faire du bien. Et vous allez devenir un théologien. Vous saurez ce que dit la parole de Dieu sur la justice. Par exemple, vous pouvez aussi, pourquoi pas, acheter, et ça c'est recommandé, une autre traduction. Une traduction différente, qui va vous donner un éclairage nouveau. Pas ça, c'est peut-être plus pour la méditation. Vous méditez un texte, vous sentez que vous devez vous arrêter, relire, réfléchir. Ben là, c'est le moment pour ce texte, lisez-le dans une autre traduction. Par exemple, là, pour ce message. Le peuple, c'était écrit dans notre traduction que le peuple se tenait là. Une autre traduction dit « s'est levé » quand la parole s'est ouverte. C'est intéressant. Ça donne des pistes. Avoir d'autres traductions. Quelques bons commentaires, ça peut être utile aussi. Mais quand vous étudiez, je dis toujours ça aux frères, lisez d'abord l'écriture et regardez après le commentaire. Parce que il faut d'abord s'en imprégner, le comprendre soi-même et après dire ce qui est dit. Parce qu'on veut aller vite, hein. On va au raccourci, on veut d'abord lire le livre qui parle sur l'écriture. Lisons d'abord l'écriture et nous comprendrons mieux ce qu'un auteur dit sur ce que nous venons de lire. Et puis je termine disant, déjà, venons avec la parole dans les réunions. On doit le dire aujourd'hui, autrefois ça n'existait pas, on venait tous avec l'écriture. Et s'il y en a quelqu'un qui fait ça, c'est pas grave, c'est pas pour dire, ça c'est pour lui, non. Mais venons avec la parole de Dieu. Quand je me suis converti, je prenais la Bible partout. Des fois, c'était même un peu ridicule. Parce que je savais que je n'en avais pas besoin, hein, mais je la prenais avec moi. Et j'allais là-bas, à droite, à gauche. Voilà. Mais la parole de Dieu était avec moi. Alléluia. Venons dans la maison de Dieu avec sa parole. Lisons-la ensemble. Unissons-nous par elle. Glorifions Dieu en la respectant. Comprenons-la mieux pour qu'elle ne nous fasse pas de mal, mais qu'elle nous fasse aller de l'avant. Alléluia. Cette parole, c'est la bénédiction du Seigneur. Quelle grâce que nous l'ayons. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on termine en chantant. Vous voulez bien ?